Bon vendredi à tous, c'est Hélène Denis avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens de ce vendredi jusqu'à 11h30, 26 octobre 2018. Et c'est Maurice Bolduc qui a la mise en onde.
Oui, bonjour.
Ça va?
Oui, vous-même?
Oui, oui, ça va bien, merci. Il fait un beau soleil, puis mm-hmm. c'est la fin de semaine. Alors, habituellement, on est de bonne humeur hein, quand la fin de semaine arrive, même si on aime beaucoup notre travail.
Oui, oui, et c'est l'automne.
Oui, belle saison.
Oh, oui.
L'automne comme ça, là, je regardais les feuilles tomber, de belles couleurs.
Ouais. Tant qu'il n'y a pas trop de pluie, ça va.
Non, ça en prend de la pluie, par exemple, mais si ça dure une semaine, là, c'est sûr que ça rentre dans le moral. Alors, allez-y avec les éphémérides, mon cher.
Oui, en ce 26 octobre, en 1825, le lac homonyme Érié et le bassin du fleuve Hudson est ouvert. En 1850, dans l'Arctique canadien, le passage du Nord-Ouest est découvert par l'équipe de Robert le Mesurier Mickler. 1905, c'est la signature du traité de séparation entre la Suède et la Norvège. Toujours 1905, à Saint-Pétersbourg, c'est en Russie. Lors d'un bref soulèvement, des ouvriers forment le premier soviet, c'est le Conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats. En 1917, c'est la première publication des aventures de Félix le Chat en bande dessinée. 1965, la reine Élisabeth décore les Beatles de l'ordre de l'Empire britannique. 1978, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole a totalement disparu de la planète. On se croise les doigts, ils arrivent à l'occasion, ils nous disent telle maladie a disparu, puis 30 ans plus tard, hop, la maladie a réapparu. Donc, pour l'instant, il n'y en a plus. En 1887, l'accord constitutionnel du lac Meade passe aux communes par 242 voix contre 16. Le dit accord sera rejeté en juin 1990. Ça nous amène en 1992, c'est la défaite par référendum de l'accord de Charlottetown. Le non l'emporte dans 6 provinces, mais Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick votent oui avec une bonne majorité et l'Ontario avec une très faible marge. En 1997, à Jerez, en Espagne, Jacques Villeneuve devient le premier pilote canadien qui devient champion de la Formule 1. En 2001, George W. Bush signe le Patriot Act, c'est la loi antiterroriste. 2009, une vaste campagne de vaccination pour contrer la grippe qu'on avait surnommée. La grippe, c'est la première fois que je vois ça. La grippe code postale.
Ah oui? Je ne me souviens pas d'être ça du tout.
Non plus, c'est écrit comme ça. La AH1N1, c'est peut-être pour ça.
Ben oui, c'est sûr.
Qui s'amorce au Québec, c'est un peu un pétard mouillé. Il n'y a pas eu vraiment de pandémie cette année-là.
Bon, c'est tout fait prendre un peu beaucoup. Moi, c'est la première fois que j'allais me faire piquer, vacciner.
Ben, il n'y avait pas des grandes files quand même. Je me souviens d'avoir été au Parc olympique à l'époque.
On n'attendait pas.
Non, c'est assez efficace. Et en 2009, une naissance qu'on souligne, Mme Hillary Clinton naît en 1947.
Ben oui, j'espère qu'elle va recevoir un beau cadeau aujourd'hui, parce que cette semaine, le colis qu'elle a reçu, c'était...
Dure semaine, oui. Donc ça lui donne 71 ans, la dame, c'est ça, 71, ouais, 71. Mm-hmm. Et en un décès, John Kinder Labatt, homme d'affaires et brasseur canadien, nous quittait en 1866, mais sa bière est restée.
Lui, il connaissait ça.
Yep.
Merci, Maurice.
Le tour de ce 26 octobre.
À la une de la presse, du pot plus cher pour les malades, le cannabis vendu sur ordonnance à des fins médicales coûte de 20 à 40 de plus que des produits comparables vendus par la Société québécoise du cannabis, même si dans certains cas, il s'agit exactement des mêmes produits. Jane Malenfant, d'itinérante à doctorante. Analyse, une enquête sur l'UPAC soulève des doutes. C'est l'UPAC, U-P-A-C, et non l'UPAC. Pose chic, le juste prix du jean. Alors, ça va de 20 $ jusqu'à 700 $ et même plus. Le cannabis vendu sur ordonnance à des fins médicales coûte de 20 à 40 % de plus que des produits comparables vendus par la Société québécoise du cannabis à des fins récréatives. Et pourtant, l'industrie du cannabis reconnaît que ce sont, dans certains cas, exactement les mêmes produits, même s'ils sont commercialisés sous un autre nom. Une comparaison des prix réalisée par la Clinique Santé Cannabis de Montréal et par la presse révèle même des écarts de prix pouvant atteindre 77 % à la faveur du marché récréatif. Il est toutefois difficile de savoir si ce sont des plants issus exactement des mêmes récoltes, puisque les producteurs utilisent des noms différents sur le marché médical et sur le marché récréatif. C'est incontestablement très frustrant de voir qu'un produit utilisé comme médicament coûte plus cher qu'un produit qui sert à se divertir. Ça devrait être le contraire. Ce n'est pas juste que les patients aient à payer une sorte de taxe pour se soigner, déplore Rebecca Fogel. La jeune femme de 24 ans qui souffre de la maladie de Crohn depuis l'âge de 16 ans doit débourser quelques 1 500 $ par mois pour acheter les 150 grammes de cannabis médical sous forme d'huile et de fleurs séchées que lui prescrit son médecin avant de l'utiliser. Elle était traitée avec des opioïdes qui la rendaient complètement amorphe et inapte au travail. Mais à 1 500 $ par mois, je ne peux que me payer la moitié de ce dont j'ai besoin. C'est vraiment très cher, dit la patiente que la Clinique Santé Cannabis a embauchée comme réceptionniste pour lui donner un coup de main. La porte-parole de Exo, le principal fournisseur de la SQDC, Isabelle Robillard, reconnaît que dans certains cas, ce sont exactement les mêmes produits. Selon elle, la différence de prix s'explique par le plus grand degré d'encadrement du cannabis vendu à des fins médicales. Dans le marché récréatif, le consommateur est davantage laissé à lui-même. Il y a un encadrement beaucoup plus robuste du côté médical, souligne-t-elle. Mais pour la Clinique Santé Cannabis, l'ampleur de l'écart de prix est difficile à expliquer. C'est en grande partie nous qui faisons les suivis et nous assurons que la posologie est respectée, dit Nadia Gvaksik, gestionnaire de la clinique. Colis suspects. L'enquête sur la série de colis suspects destinés à des personnalités politiques et médiatiques américaines se braque désormais sur le sud-ouest de la Floride, d'où auraient été expédiés quelques-uns des paquets. N'empêche, aucun suspect ne pointe encore à l'horizon. Mais comment les autorités amorcent-elles une enquête de cette ampleur? La presse a consulté deux experts pour y voir plus clair. Lorsqu'une bombe est désamorcée ou neutralisée, les enquêteurs l'examinent sous toutes ses coutures afin de déterminer un élément bien précis. Quelle est la signature de celui qui l'a fabriqué? Que ce soit les matériaux utilisés, la technique d'assemblage ou le dispositif de mise à feu, rien n'est laissé au hasard. Une bombe, c'est très signé, souligne Paul Laurier, ex-enquêteur à l'université, à l'unité, antiterroriste de la Sûreté du Québec. Ça peut être des micro-détails, le ruban gommé d'un côté, le fil rouge d'un autre. D'autres indices vont nous dire si c'est quelqu'un de l'armée ou si ça a été enseigné par Al-Qaïda, par exemple. Autre possibilité, l'auteur peut avoir imité la signature d'un autre pour brouiller les pistes. Dans sa carrière, M. Laurier raconte avoir assisté au cas loufoque d'un suspect qui avait largement aidé les policiers en oubliant un code à barre autocollant sur le tuyau d'acier qu'il avait utilisé pour fabriquer sa bombe. Et selon Michel Wilson, ex-commandant du SWAT au sein du service de police de la ville de Montréal, les auteurs potentiels d'engins explosifs sont moins nombreux qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas tout le monde qui monte des bombes. C'est même une minorité de personnes. Bien sûr, des recettes circulent sur l'Internet et peuvent compliquer la vie des enquêteurs. Toutefois, c'est une chose de regarder une vidéo, mais c'en est une autre de passer à l'acte, estime Paul Laurier. On ne manipule pas des engins explosifs comme ça. Tu peux jouer à l'apprenti sorcier, mais il va te manquer des doigts à la fin de la journée. Écartée du Conseil des ministres, la députée d'Iberville, Claire Sanson, songe sérieusement à quitter la politique. Madame Sanson a été vue pour la dernière fois au Parlement le jeudi 18 octobre lors de la prestation de serment des membres du Conseil des ministres au Salon Rouge. Contrariée d'en être exclue, elle avait quitté la salle avant la fin de la cérémonie. Elle est depuis en congé de maladie pour un temps indéterminé. Souffrant d'épilepsie depuis des années, elle a subi des rechutes. Elle doit bientôt passer des examens médicaux. Interrogée au téléphone pour savoir si elle avait entrepris une réflexion sur son avenir politique, elle ne s'est pas défilée. « C'est le moins qu'on puisse dire », a répondu Mme Sanson, qui donne toutefois la priorité à court terme à sa convalescence. « C'est tough, la politique », résume-t-elle. Quant à comprendre pourquoi le premier ministre l'avait tassée, elle affirme n'en avoir aucune idée. Le nouveau gouvernement de la coalition Avenir Québec compte envoyer sous peu une liste de projets de transport prioritaires à Ottawa, mais il ne devrait pas s'attendre à une pluie de milliards à court terme. Les fonds fédéraux disponibles pour des projets de transport collectif québécois s'élèveront en moyenne à 433 millions de dollars par année d'ici 12 ans, tandis que les sommes qui pourraient servir à financer des autoroutes seront bien moindres. Le nouveau ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a énuméré une ambitieuse liste de projets plus tôt cette semaine. Elle comprend le prolongement du réseau express métropolitain, vers Chambly et vers Laval, le prolongement des lignes bleues et jaunes du métro et plusieurs élargissements d'autoroutes, dont l'autoroute 19, la 25 et la 30. M. Bonnardel a indiqué qu'il accorderait la priorité à certains dossiers et ferait parvenir la liste à Ottawa au cours des 3 à 4 prochaines semaines. En entrevue avec la presse hier, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, s'est montré disposé à collaborer avec son nouvel homologue caquiste, qualifiant de très étroite la relation entre les deux ordres de gouvernement en matière de transport. « Il y a beaucoup d'enjeux. M. Bonnardel et moi, on va s'asseoir ensemble et on va parler du rôle fédéral et du rôle provincial », a expliqué le ministre. « Je vous dirais que la coopération avec le Québec a toujours été excellente, vraiment. » Les nombreux projets mis de l'avant par le gouvernement de la CAQ ne pourront toutefois bénéficier d'une quantité infinie de fonds fédéraux. Dans le cas des élargissements autoroutiers, les dossiers qui pourraient être soumis par Québec devront répondre à plusieurs critères précis pour être éventuellement admissibles au Fonds national des corridors commerciaux. 978 millions, somme restante provenant du Fonds national des corridors commerciaux pour la prochaine décennie. Le Fonds pan-canadien étalé sur 11 ans totalisait 2 milliards de dollars, mais quelques 760 millions ont déjà été attribués, alors que 255 millions sont déjà réservés au territoire. Les 3 ex-employés de stationnement de Montréal qui ont volé 300 000 $ en petite monnaie dans des parcomètres ont été condamnés à la prison hier au Palais de justice de Montréal. Des peines d'emprisonnement s'imposaient selon le juge Pierre Labelle qui a souligné que les 3 malfaiteurs n'avaient pas reconnu leur larcin prémédité et perpétré sur une période de plusieurs mois, en 2012 et 2013, ajoutant que les sommes subtilisées n'avaient jamais pu être récupérées. Les 3 hommes qui avaient la tâche de vider les parcomètres avaient obtenu une copie de la clé, permettant d'ouvrir les boîtes métalliques contenant la monnaie. Pendant le transport, ils pigeaient dans les boîtes pour s'approprier les pièces de 1 et 2 $. Richard Bellavance, un ancien col bleu, a été condamné à 10 mois de prison. Jean-Michel Song a quant à lui écopé de 7 mois de détention. Jocelyn Lefebvre s'en est tiré de son côté avec une peine d'un an dans la collectivité. Le juge a renoncé à demander aux 3 hommes de rembourser les sommes subtilisées. Compte tenu de leurs faibles revenus et de leurs obligations familiales, il leur faudrait de nombreuses années pour tout rembourser. À la quincaillerie, on retrouve à peu près la même proportion de produits fabriqués localement que dans les supermarchés. Or, les consommateurs peinent à les identifier. Pour remédier à la situation, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction a eu l'idée de créer un logo pour remédier à la situation. L'initiative a fait boule de neige d'un bout à l'autre du pays. Si tout se passe comme prévu, le logo « Bien fait ici, well made here » fera son apparition dans les commerces le printemps prochain, a appris la presse. Chine, certains ne reculent devant rien pour remporter l'Oscar du meilleur scénario. C'est une citation de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères démentant la nouvelle selon laquelle les services secrets chinois et russes écouteraient les appels téléphoniques passés par le président américain à partir de son iPhone et utiliseraient ces conversations pour ajuster leur politique vis-à-vis des États-Unis.
Je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse, mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse, mon scraper m'appel de bois pour vous rendre à la vue. Je vous laisse, la petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse les enfants qui s'assomment en speechant des balles de neige en glace en pleine face. Je vous laisse les enfants qui ont la langue collée sur les tracts et qui pleurent parce que le train s'en vient. Je vous laisse les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort trop sucré. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au cou. Je vous laisse le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slotch, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer.
Robert Charlebois, Demain l'hiver.
En une du Devoir, féminisme, clivage en vue à la FFQ. L'organisme risque de vivre de nouveaux déchirements en voulant légitimer le travail du sexe et en rouvrant le débat sur le port du voile islamique. Musique, le chaos orchestré, Julia Holter présente Aviary. Une limite à l'exception culturelle, la clause de représailles du nouvel ALENA inquiète des experts. Le prix Sakharov, remis à Oleg Sentsov, cinéaste symbole de l'opposition ukrainienne à la Russie. Et Zeitgeist, la chronique de José Blanchette, mes sorcières bien-aimées puisées dans la sororité pour s'affranchir. Déjà affaiblie par plusieurs défections survenues ces dernières années, la Fédération des femmes du Québec est à un tournant de son histoire. Réunis en Assemblée générale extraordinaire dimanche, les membres de la FFQ seront appelés à se prononcer sur deux positions polarisantes traitant du voile islamique et de l'industrie du sexe, des débats qui pourraient mener à de nouvelles fractures au sein de l'organisation. En entrevue au Devoir, la présidente de la FFQ, Gabrielle Bouchard, reconnaît que ces deux débats risquent d'être houleux et que quelques maillons pourraient quitter l'organisation. C'est une conversation qui va être difficile parce que ce sont deux enjeux qui viennent nous chercher dans notre fonds, soutient Mme Bouchard. Une ombre plane sur la clause d'exception culturelle du nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada, celle de la présence d'une clause de représailles qui pourrait avoir un effet refroidissant sur les intentions du Canada de protéger sa culture, préviennent des experts. Elle est fatigante, cette clause-là, reconnaissait jeudi Solange Drouin, coprésidente de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. Les industries culturelles se posent beaucoup de questions là-dessus, ajoute Geneviève Dufour, professeur de droit international économique à l'Université de Sherbrooke. C'est dangereux, ce qu'on a fait là, même si ça demeure théorique pour le moment. En clair, cela veut dire que le Canada peut certes protéger ses industries culturelles comme il le veut, en imposant par exemple à Netflix un quota de contenu canadien, mais que les États-Unis pourraient imposer des mesures similaires ou demander des compensations. Cette clause de représailles existait aussi dans le premier accord de libre-échange avec les États-Unis, et n'a jamais été utilisée, rappelle Véronique Guévremont, qui est titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Sauf que le passé n'est pas ici garant de l'avenir, pense-t-elle. Rémunération, Barrette prend ses distances de l'entente avec les spécialistes. L'ancien gouvernement libéral a donné un avantage aux médecins spécialistes en se pliant à leur demande d'évaluer leur rémunération à la lumière de celle de leurs confrères et de leurs consoeurs, non seulement de l'Ontario, mais de toutes les provinces du Canada et d'Avi Gaétan Barrette. « Mon intention initiale n'était pas celle-là », a souligné l'ex-ministre de la Santé à son arrivée dans un hôtel de Lac-Beauport, où étaient réunis les 29 élus du Parti libéral du Québec jeudi. Malgré cela, l'équipe de Philippe Couillard et la Fédération des médecins spécialistes du Québec se sont entendus pour confier à l'Institut canadien d'information sur la santé le mandat de faire une étude comparative entre la rémunération des médecins spécialistes du Canada et ceux du reste du Canada. La MFSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, a toujours voulu ne pas prendre seulement l'Ontario comme base de comparaison. Elle voulait inclure des provinces où les frais sont plus élevés. C'était à son avantage. Elle voulait inclure la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan, a fait remarquer M. Barrett. Le député de Lapinière a pris soin de répéter, pour que ce soit bien clair, que cette entente-là a été négociée par Roberto Iglesias et qu'en fin de compte, on a rajouté le Canada. Mercredi, le premier ministre François Legault disait attendre les conclusions d'une analyse comparative du traitement des médecins spécialistes québécois et ontariens pour négocier une nouvelle entente de rémunération avec les médecins spécialistes. Le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcan, a invité le chef du gouvernement à faire preuve de patience. À ses yeux, M. Legault ne pourra ignorer la hausse salariale qui sera consentie, selon toute vraisemblance, aux médecins ontariens cet automne. Pas de kirpan à l'Assemblée nationale. La Cour suprême du Canada a refusé d'entendre jeudi l'appel d'un homme et d'une femme de confession sikh qui avait été interdit d'entrer car ils refusaient de se départir de ce couteau cérémonial. Le gouvernement caquiste n'aura donc pas à gérer, en plus du débat sur le crucifix, celui sur le port du Kirpan, le plus haut tribunal au pays se trouvant invalidé avec ce refus d'autorisation d'appel les décisions rendues par deux tribunaux inférieurs. La Cour supérieure et la Cour d'appel avaient déterminé que l'Assemblée nationale avait agi dans le cadre de son privilège parlementaire et que l'exercice de ses privilèges n'était pas assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés. Le Canada est en voie de réviser tous ses permis d'exportation d'armement vers l'Arabie saoudite dans la foulée de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Et à ceux qui se demandent quel effet pourra bien avoir la suspension temporaire des ventes d'armes, le premier ministre Justin Trudeau réplique qu'il s'agit d'une puissante façon de forcer Riyad à expliquer ce qui a bien pu se passer. « Nous sommes en train de réviser actuellement nos permis d'exportation à l'Arabie saoudite », a déclaré M. Trudeau, alors qu'il s'adressait à la presse en compagnie de son homologue des Pays-Bas en visite à Ottawa. Les permis d'exportation ne doivent pas être confondus avec les contrats. Les contrats lient le fabricant d'armes au pays acheteur. Le rôle du gouvernement canadien est de délivrer par la suite les permis autorisant l'exportation des produits. Il y a souvent plusieurs permis associés à un même contrat. Depuis quelques jours déjà, M. Trudeau répète que le Canada a suspendu ses permis d'exportation d'armes vers l'Arabie saoudite dans le passé et n'hésiterait pas à le faire de nouveau. On fait partie d'une communauté internationale qui a des questions graves sur le comportement des Saoudiens par rapport au meurtre de Jamal Khashoggi, affirme Justin Trudeau. La caricature de Garnotte, on voit « Le CO2 n'est pas de la pollution, c'est ce qui sort de votre bouche quand vous respirez, ce qui nourrit les plantes. » C'est une citation de Maxime Bernier. Et on le voit en train de manger, de digérer même son sous-marin. Et il y a une fleur qui tombe. On dirait la fleur de Gérard, mais ça, c'est une autre histoire. Et qui dit « Excuse » parce qu'il se rend compte que finalement, ce qui sort de sa bouche, c'est pas mal de la pollution. Et le défenseur Xavier Ouellet a bataillé ferme contre Johan Larsson en deuxième période jeudi soir à Buffalo. Le Canadien de Montréal n'a jamais tiré de l'arrière de la rencontre, mais une pénalité infligée à Joël Armia en fin de troisième période a permis aux Sabres de marquer le but décisif à une minute de la fin dans une victoire de 4-3. Victoire crève-cœur, en fait, défaite crève-cœur.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel ou jamais des matins gris. Je suis sorti des brumes, je me suis enfui sous des ciels plus légers, pays de paradis. Oh que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres, et vous ferez le bruit de nos retintes amarres. Des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenées, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont le feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire. Et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, vous pouvez me croire. Je reviens fatigué, et j'ai le désespoir. Légère si légère, j'allais court vêtue. Je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir avec les langues vagues de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la hache de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas, quelque part. Mais la terre s'est ouverte et c'est le désespoir. J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli. J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui. Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard. Qui me menait ici, ailleurs ou autre part. Où la fleur était rouge, où le sable était blond. Où le bruit de la mer était une chanson. Oui, le bruit de la mer était une chanson. Mais un enfant est mort, là-bas quelque part. Mais un enfant est mort. Le soleil est noir, j'entends le glas qui sonne, tout là-bas quelque part. J'entends le glas sonner, et c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelé. Je vous reviens ce soir, le cœur égratigné. Car de les regarder, de les entendre vivre, avec que j'ai eu mal, avec que j'étais ivre. Je ne ramène rien, je reviens solitaire. Du bout de ce voyage, au-delà des frontières. Est-il un coin de terre où rien ne se déchire? Et que faut-il donc faire, pouvez-vous me le dire? S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes. Et si je pouvais seul faire taire les armes. Je jure que demain je reprends l'aventure. Pour que cesse à jamais toute cette déchirure. Je veux bien essayer, et je veux bien y croire. Mais je suis fatigué. Soleil est noir, pardon de vous le dire, mais je reviens ce soir. Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir. Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir.
Soleil noir, revue par Angélique Kidjo.
Quelle belle voix. Merci, Maurice. En une du Journal de Montréal, cri du cœur à Trudeau. Omar Abdulaziz, qu'on voit en une, ami du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné il y a 3 semaines à Istanbul, demande au premier ministre canadien d'intervenir pour protéger ses proches emprisonnés en Arabie saoudite. Après son fiasco en politique, Gertrude Bourdon veut retrouver sa job. La vie de famille en Russie, chronique de Régent Tremblay qui est là-bas, et 20 suggestions pour l'Halloween. Gertrude Bourdon est candidate à sa succession après un saut en politique raté. Elle veut redevenir PDG du CHU de Québec. La libérale défaite Gertrude Bourdon est candidate à sa propre succession. Les intéressés ont jusqu'à aujourd'hui pour soumettre leur candidature pour ce poste convoité à 305 698 $ par année. L'affichage, qui devait initialement se terminer le 9 octobre, a été prolongé en raison du faible nombre de dossiers soumis. Selon nos informations, la gestionnaire Gertrude Bourdon a posé sa candidature pour reprendre du service comme grande patronne du CHU de Québec, Université Laval, une fonction qu'elle occupait avant de tenter sa chance en politique. Candidate libérale vedette, défaite dans la circonscription de Jean Lesage, l'infirmière de formation a surtout fait parler d'elle pour avoir flirté avec la CAQ avant de joindre l'équipe de Philippe Couillard. Logement détruit pour des fils. Un homme de 27 ans est accusé d'avoir détruit le plafond, les murs et les électroménagers d'un logement pour en revendre le cuivre contenu dans les fils et les tuyaux de plomberie. Tommy Dupuis avait loué un demi-sous-sol dans un quartier résidentiel de Rouyn-Noranda en Abitibi. Le propriétaire a retrouvé son logement dans un piètre état. Des fils pendaient du plafond, des murs ont été arrachés et les électroménagers ont été démontés. Le locataire aurait tout détruit pour sortir le cuivre et le revendre. Ça fait plus de 12 ans que je suis propriétaire d'immeubles et je n'ai jamais vu une affaire comme ça, dit le propriétaire des immeubles Abitibi, Cédric Lajoie, qui estime les dommages à 20 000 $. Tommy Dupuis a été arrêté et accusé mercredi de méfaits et de non-respect des conditions. Il reste détenu et reviendra devant le tribunal le 29 octobre. La bruyante génératrice d'Hydro-Québec qui fonctionnait inutilement depuis 9 jours dans un quartier résidentiel de Montréal a été retirée hier en avant-midi. C'est cool, ça a porté ses fruits de dénoncer la situation. Finalement, ils ont trouvé le temps de l'enlever et je suis bien content qu'on puisse retrouver notre quiétude. On n'a plus de bruit de fond, s'est réjoui Christophe Michaud qui se plaignait comme plusieurs citoyens de ce secteur d'Hochelaga que le moteur faisait un énorme vacarme. La Société d'État avait assuré mercredi que la génératrice allait être retirée aujourd'hui. Le travail qui a duré quelques heures a visiblement pu être accompli avant. Débrancher une génératrice, c'est une opération qui demande plusieurs travailleurs. Il y a une planification à faire selon les disponibilités des équipes, avait indiqué mercredi Jean-Philippe Rousseau, conseiller en relation avec le milieu d'Hydro-Québec. La génératrice a été déployée le 13 septembre afin de sécuriser des fils électriques pour que des travailleurs puissent procéder à des travaux de maçonnerie. L'exploiter coûtait environ 500 $ par jour, selon Hydro-Québec. L'entrepreneur avertit la Société d'État le 15 octobre qu'elle pourrait retirer la machine le lendemain puisque le contrat était terminé. Elle fonctionnait inutilement depuis, mais un camion-citerne venait toutefois quotidiennement remplir la génératrice de diesel. Bien triste histoire, une adolescente de 17 ans de la région du Bas-Saint-Laurent est morte mercredi sur l'autoroute 20 alors qu'elle venait de souper avec sa mère à la Pocatière et retournait chez elle. Le conducteur, le copain de la victime, aurait donné un coup de volant pour éviter un poids lourd qui se tassait vers son véhicule. Le véhicule aurait fait des tonneaux sur le terre-plein avant de percuter une auto circulant de l'autre côté. Le conducteur de cette automobile, Alain Dion, 63 ans de Matane, est également mort. Dans la catégorie histoire invraisemblable, deux frères âgés de 3 et 4 ans étaient essentiellement nourris au Coca-Cola par leur père alcoolique qui vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme à Limoges, en France, a-t-on appris auprès de l'avocate des enfants. Le plus âgé s'est vu arracher 7 dents rongées par le sucre et le second est aujourd'hui dans un état quasi mutique, a précisé Mme Maître Carole Papon, représentante de l'association France Victime 87. La chronique de José Legault intitulée « Pour un changement radical de culture ». Comme vous le savez peut-être, je suis la proche aidante de ma sœur déficiente intellectuelle, DI, entre parenthèses, déficience intellectuelle, en attente depuis des années d'un milieu de vie adéquat pour elle. Comme des milliers d'autres familles, j'en prends soin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous dis ça parce qu'un reportage de Radio-Canada vient justement nous rappeler l'abandon scandaleux dans lequel le gouvernement a plongé les personnes déficientes et autistes, enfants ou adultes, et leurs familles. Le nouveau premier ministre brisera-t-il enfin la culture d'indifférence envers les personnes déficientes intellectuelles? On fait état de longues listes d'attentes pour un premier service pouvant même dépasser les 500 jours. On parle aussi d'une chute radicale des activités de jour pour enfants et adultes déficients. Ajoutons le problème criant des ressources d'hébergement. l'attente pour une place allant de 7 à 12 ans. Sans compter que les ressources de qualité se font aussi de plus en plus rares. Bref, voilà l'inévitable résultat de l'effet combiné de l'austérité libérale et de l'indifférence totale du tandem Couillard-Barrette face aux personnes déficientes, tout âge confondu. Maintenant qu'un nouveau gouvernement plus empathique est élu, bien des familles épuisées et découragées se remettent à espérer de meilleurs services. Pour ma part, je suis persuadée que le Québec est mûr pour un changement radical de culture politique et institutionnelle face aux personnes déficientes et autistes. Permettez-moi d'en tracer quelques lignes. 1. Insuffler une dose majeure d'humanisme dans un système de plus en plus déshumanisé. C'est triste à dire, mais le réflexe de la machine bureaucratique est de minimiser les besoins complexes et variables des personnes déficientes. Or, chacune a ses rêves et ses besoins spécifiques. 2. Décentraliser les CIUS, ces monstres bureaucratiques ultra-centralisés créés par l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette ont produit des technocrates trop souvent déconnectés de la réalité multiple de la DI. 3. Déghettoiser les personnes déficientes, tant dans leur milieu de travail que dans leur milieu de vie. Au-delà des ressources intermédiaires privées subventionnées, RI, d'autres formules d'habitation plus humanistes et mieux intégrées à la vie communautaire sont possibles et nécessaires, y compris pour les personnes déficientes vieillissantes, lesquelles sont souvent parachutées dans une RI, une ressource intermédiaire privée subventionnée, ou un CHSLD incapable de répondre à leurs vrais besoins. 4. Briser la frontière artificielle basée sur l'âge. La déficience intellectuelle n'est pas une maladie qui se guérit avec le temps. C'est un état de vie à vie. C'est un état de vie et à vie, c'est ça. Les services ne doivent donc plus être pensés selon l'âge de la personne, mais en continuum, selon les besoins de chacune. 5. Leurs aidants naturels, parents ou fratries adultes, doivent être reconnus dans la future politique nationale de la proche aidance promise par le premier ministre François Legault. Ils devront être reconnus en termes de services et de soutien financier concret. 6. La création d'un poste de commissaire à la protection des personnes déficientes et autistes. 7. La mise sur pied d'un bureau permanent de consultation auprès des familles et des personnes handicapées. Question de permettre aux ministres responsables de rester connectés à la réalité vécue par les premiers concernés. Cette réalité, personne ne la connaît mieux que les familles elles-mêmes.
Un jour je vais payer le prix, à prendre tous les défis. Quand on dit qu'il y en a plus, il y en a encore. Je sais plus où je suis supposé trouver, puiser l'énergie. Comme retrouver le temps où on souhaite. Ah, et le feu nous fait courir les yeux fermés. Mais je te vois. La peine, j'ai donné tout en même temps.
Je sais plus ce qui me donne le sourd.
Prêt à sacrifier la main, on est parti de si loin.
Et dans les allers-retours, la gorge est de trop sourde. Juste une dernière fois, puis on s'arrête. On s'arrête. C'est brûlé sur des kilomètres.
Allez,
avant qu'on s'arrête. Le feu nous fait courir les yeux fermés. Va se suffire de l'alimenter.
Je te vois, je te vois.
Si je fragilise, t'as juste à me casser. J'en ai jamais assez. Je m'immobilise, on se fait ralentir, on s'éteint, on s'attise. Le feu nous fait courir les yeux fermés, mais je te vois. Je te vois. La couleur qui rend fou.
C'est moi qui t'avais promis.
Le bleu entre chien et l'eau.
Juste avant qu'arrive la nuit, la nuit.
juste une dernière fois, puis on s'arrête. On s'arrête. On se brûle sur des kilomètres. Allez, avant qu'on s'arrête. Le feu nous fait courir les yeux fermés. Va se suffire de l'alimenter.
Claude Bégin, accompagné de Marie-Mé. On s'arrête.
Nouvelle canadienne, puisque nous sommes vendredi. Communautaire congrès des aînés, Jeux Franco Plus. C'est sur le franco.ab.ca. Des nouvelles d'Edmonton, plus de perspectives face aux défis du temps. L'événement Vivre actif marque la première année de la fusion du congrès de la Fédération des aînés francophones de l'Alberta, FAFA, et des Jeux Franco Plus. Deux jours et demi d'activités réparties du 27 au 29 septembre ont permis d'aborder des questions de société, notamment celles portant sur le vieillissement différentiel. Une présentation faite par l'enseignant-chercheur Boniface Bailly. Le sport à fond la forme, tel aurait pu être le slogan du congrès de la FAFA, Fédération des aînés francophones de l'Alberta, cette année. Une cinquantaine de personnes ont assisté aux deux premiers jours du congrès contre 76 inscrits pour les Jeux. Le CA a décidé de s'orienter vers des activités physiques de santé, de bien-être. L'idée, c'est sa tête, cœur et jambes, à savoir santé mentale, santé morale et santé physique, explique la directrice de la FAFA, Alizée Cook. Un congrès actif pour des aînés actifs. Le congrès s'est très bien passé. Les personnes présentes ont apprécié la diversité des activités, explique Mme Cook. Les deux conférences principales portaient sur le vieillissement différentiel et sur le cannabis. Un bon moyen de montrer les pour et les contre. Les aînés s'intéressent donc de près à ces enjeux de société où l'usage récréatif et médical s'entremêle. Pour la première fois, des choix d'ateliers ont été proposés portant tour à tour sur le yoga du rire, le stress au mieux-être, les premiers soins, les bénéfices du yoga, la sexualité chez les aînés et enfin un atelier sur l'alimentation. Le programme est le résultat du questionnement des aînés, précise bien la directrice de la FAFA. Sans conteste, le clou de ces trois jours a été l'intervention de l'enseignant-chercheur spécialiste de l'anthropologie de la santé, M. Boniface Bailly. Dans le courrier de la Nouvelle-Écosse, Patricia Detcheverry, co-rédactrice du nouveau magazine de l'Atlantique, était en visite dans la région de la baie Sainte-Marie du 4 au 10 octobre pour connaître l'endroit et rédiger un reportage. Elle a, entre autres, participé aux activités de la fin de semaine du patrimoine vivant. Patricia est partenaire dans le magazine avec Françoise Angehard, ancienne présidente de la Société nationale de l'Acadie. Elles ont déjà visité les régions des provinces de l'Atlantique. « Je suis ici pour rencontrer les gens de la baie Sainte-Marie », a précisé Patricia, « et pour les présenter aux gens de partout en Atlantique, comme à ceux de Saint-Pierre et Miquelon qui ne connaissent pas la région. C'est un lieu francophone unique. Le 20 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, l'île du Prince-Édouard, les îles de la Madeleine, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, les îles Saint-Pierre et Miquelon et Terre-Neuve et Labrador ont été réunis par le lancement d'un magazine numérique en français » conçu pour les quelque 300 000 personnes qui parlent français dans la région. pour les nombreux membres de la diaspora atlantique et pour tous les gens à travers le monde qui s'intéressent à la région ou qui souhaitent la découvrir. On parle d'eux et à eux, a noté Patricia. L'heure de l'Est.org, magazine en ligne accessible à tous, gratuitement, vise à effacer les frontières géographiques et à permettre aux gens de mieux se connaître où qu'ils vivent. Par le biais de la langue française, il met en valeur les territoires et les gens, crée un lien et encourage la mise en réseau. Il y a 2 à 3 articles par semaine ainsi que l'infolettre chaque lundi. L'abonnement se fait en ligne, l'heure de l'Est.org. Présence à Tout le monde en parle, Denise Bombardier, un mélange de pessimisme et d'ignorance. C'est un article de Luca Piori, publié hier. Les francophones hors Québec seraient en train de mourir. Telle est l'idée colportée par Denise Bombardier sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle le 21 octobre. Des propos qui ont fait sursauter aux 4 coins du pays, y compris au Québec, et qui sont symptomatiques du lien brisé entre 2 francophonies canadiennes qui ne se parlent plus. À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. C'est cette phrase de l'auteur québécoise qui a déclenché une vague d'indignation, ravivant au passage les souvenirs de vieilles expressions blessantes comme « les cadavres encore chauds » de l'écrivain Yves Beauchemin en 1990 ou « les dead docks » de René Lévesque en 1968, utilisées pour qualifier les francophones hors Québec. Plusieurs intellectuels ont réagi sur les réseaux, dont Martin Paquet, historien à l'Université Laval. C'est tout simplement l'expression d'un sentiment de supériorité mal avisé, qu'il soit fondé sur l'ignorance ou qu'il s'appuie sur une connaissance même fausse. Les membres des communautés francophones contribuent puissamment à faire un monde meilleur, moins uniforme et plus diversifié. Ils ne survivent pas. Ils vivent à leur manière, avec leurs défis et leurs réussites qui sont nombreuses. Nier leur existence en faire des zombies assimilés ou des canaris dans la mine anglophone, c'est non seulement nier leur dignité, mais aussi châtrer la nôtre. En tant que titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, Martin Paquet est témoin de la vitalité des différentes communautés francophones. On devrait les laisser vivre en tant que telles. On n'est pas obligé d'avoir des commentaires sur leur qualité ou leur espérance de vie. Plutôt que de faire de la comptabilité d'apothicaire, à regarder si le taux d'assimilation est à X ou à Y, il est beaucoup plus important de voir comment les francophones vivent à Edmonton, Moncton, Sudbury ou Toronto. Loin d'un certain pessimisme dont Denise Bombardier se fait l'écho, le verre est plutôt à moitié plein pour Denis Desgagnés, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. On n'est pas en train de calculer combien de temps il nous reste, mais on est dans la stratégie de construire, de bâtir des synergies, plaide-t-il. De son côté, Éric Bédard est plus partagé. Si Denise Bombardier a de toute évidence manqué de sensibilité selon lui, faisant preuve de pessimisme et d'ignorance, la réaction très épidermique ne doit pas masquer non plus les difficultés qui existent, notées dès les années 1950. Le professeur à l'Université TELUC nuance ici en citant le travail de Marcel Martel sur l'assimilation et remarque que le français est souvent confiné à l'espace privé en francophonie minoritaire, trop souvent remplacé par l'anglais dans la sphère publique. Je comprends le ressentiment des francophones hors Québec face à des Québécois qui considèrent qu'ils n'existent plus. Mais il faut aussi avoir une certaine forme de lucidité sur les problèmes. Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, a tenu à répondre, lui, par voie de presse. Les francophones sont justifiés d'être offusqués par de telles affirmations, de ressentir et d'exprimer de la frustration parce qu'encore une fois, des leaders d'opinion au Québec parlent de nous, mais pas à nous. C'est entre soi est aussi dénoncé par Denis Desgagnés qui voit le Québec se refermer, se renfermer. La francophonie doit s'ouvrir et travailler ensemble. L'avenir dépend de ce lien de solidarité, clame-t-il. Justement, son travail est de créer des ponts au centre. Je cherche à sensibiliser sur la réalité de cette francophonie dynamique, de ces gens qui font rayonner la francophonie depuis l'arrivée de Champlain, de ces francophones qui se sont débattus à tous les niveaux. Si le responsable ne nie pas le rôle incontestable du Québec dans la francophonie des Amériques, il déplore toutefois son manque de présence dans les communautés en situation minoritaire. Est-ce que la France dit que la francophonie est en train de mourir au Costa Rica? Non, elle s'y est investie, illustre-t-il. Pour Éric Bédard, les propos de la Québécoise ont mis le doigt sur ce lien rompu depuis des décennies. C'est comme si on mettait du sel sur une blessure pas tout à fait cicatrisée. Nouer un nouveau dialogue est-il alors possible? Peut-être avec un nouveau gouvernement au regard neuf, songe-t-il, sceptique. L'historien constate malgré tout un vrai dialogue dans le milieu académique, tranchant avec la génération précédente. Personne n'a à gagner de ce fossé entre Québécois et francophones canadiens, conclut-il. Désireux d'échanger, Denis Desgagnés souhaiterait un droit de réponse. J'aimerais que tout le monde en parle, donne la possibilité à la francophonie canadienne de s'exprimer. L'invitation est lancée.
Bien,
Vieille courroie par Harmonium.
Toujours beau, Harmonium, à qui on rendra hommage dimanche au Gala de la Disque en espérant que tous les membres soient présents à l'événement. Une chose est sûre, Serge Fiori a confirmé sa présence dimanche dernier. À Tout le monde en parle en espérant qu'il ne change pas d'idée. Allons-y avec la culture. Maria by Callas, êtes-vous des fans de Maria Callas? Il y a un documentaire qui est maintenant disponible réalisé par Tom Wolf. J'ai eu le plaisir et la grande chance de le voir cette semaine et j'ai adoré. Une voix, un destin, c'est Luc Boulanger qui écrit sa critique dans la presse d'aujourd'hui. Maria Callas a probablement été la première victime des fake news au 20e siècle. Toute sa vie, la Callas a eu la réputation d'être diva, dure et despote, alors qu'elle n'était que professionnelle et respectueuse de son public. C'est ce que nous apprenons, entre autres, avec l'important et bon documentaire sur la mythique chanteuse signée Tom Wolf. Ce dernier, qui n'était pas un amateur d'opéra avant de réaliser son film, a découvert la Callas sur le tard, ce qui rend Maria by Callas accessible même aux néophytes. C'est que dans les années 50 et 60, Maria Callas était une immense star planétaire. Et Luc Boulanger écrit « Céline Dion à ses côtés, c'est de la petite bière ». Je ne serais pas prête à dire ça. Et même que souvent, j'ai pensé à Céline Dion en regardant le documentaire. Céline qui a déjà dit qu'elle aimerait incarner la Callas au cinéma. Est-ce que ça se réalisera? On verra. On le constate durant ces deux heures ponctuées d'extraits de concerts et d'entrevues, d'archives inédites, de narrations, de sa correspondance personnelle avec, dans la version française, la voix suave de Fanny Ardant qui se fond aux états d'âme de la Callas. Passionnée, disciplinée, dévouée, Maria Callas est une grande artiste dotée à la fois d'un don et d'un instinct précieux. Elle se disait inculte. « Depuis l'enfance, j'ai toujours travaillé le chant. Je n'avais pas le temps de lire des livres. » Pourtant, elle fréquente la crème des intellectuels européens tels Pasolini, Visconti, Cocteau. On ne peut évoquer Maria Callas sans parler de sa vie sentimentale. Elle est follement amoureuse d'un homme, l'armateur Aristote Onassis, qui la rendra malheureuse. On sait que ce dernier refusera toujours de l'épouser et lui préférera Jackie Kennedy. Le parallèle avec son art est criant. Toute sa vie, Callas s'est abandonnée à un métier qui ne comblait pas Maria la femme, qui aurait aimé avoir un foyer et des enfants. La plus grande chanteuse meurt seule à Paris, à l'âge de 53 ans, en laissant dans le deuil des millions d'admirateurs et en entrant dans la légende grâce à un destin hors du commun. Un documentaire à voir qui est maintenant à l'affiche, Maria by Callas. Et en français, Maria par Callas. Film québécois qui prend l'affiche aujourd'hui, Wolf de Francis Bordelot. On le compare à Xavier Dolan dans sa manière d'avoir réalisé le film. Alors, effet miroir, c'est Marc-André Lucier. Dans la presse, écrit en 4 jours, tourné en 12 jours avec les moyens du bord, à peine 250 000 $, Wolf surprend d'abord grâce à sa facture visuelle, en s'associant à Miguel Enriquez, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil pour signer les images de son film. Francis Bordelot a eu le flair d'offrir à son propos un cadre visuel et sonore plus inhabituel. Le style narratif qu'emprunte le cinéaste, qui porte ici un scénario écrit dans l'urgence, est cependant d'une forme plus classique. En se confiant à un interlocuteur anonyme qu'on présume être davantage psychologue qu'enquêteur, des jeunes gens se racontent après avoir été témoins du suicide d'une amie de leur groupe. Leurs histoires sont souvent illustrées en flashback. C'est dire qu'on aborde ici des thèmes sombres. Le suicide, la santé mentale, le mal-être, mais Bordelot, qui avait signé deux courts-métrages jusqu'ici, Iceland et Carnasse, compense la lourdeur du propos par une approche énergique. Le cinéaste s'appuie également sur des pièces musicales rythmées, afin d'éviter toute complaisance sur le plan de l'émotion. Quelques-uns des acteurs les plus en vue de leur génération, Catherine Brunet, Ludivine Reding, Antoine Pilon, Léa Roy et quelques autres, se trouvent ici réunis, mais leur talent ne suffit pas à effacer l'aspect parfois un peu plaqué de certaines situations. On retiendra surtout de Wolfe le miroir qu'il tend aux milléniaux, à qui ce film est manifestement destiné. Il reste maintenant à voir s'ils se reconnaîtront. Megyn Kelly, l'un des visages les plus connus de la télévision américaine, n'a pas présenté hier son émission quotidienne sur NBC après un déluge de critiques provoquées par ses commentaires approuvant le blackface, le fait de se grimer en noir. Lors d'une rubrique consacrée au costume d'Halloween mardi, la présentatrice de 47 ans s'est demandé si le blackface, une tradition raciste renvoyant historiquement à la ségrégation quand des comédiens blancs se maquillaient en noir pour se moquer des Afro-Américains, était systématiquement problématique. Qu'est-ce qui est raciste, a-t-elle interrogé? Vous vous attirez des ennuis si vous êtes blanc et que vous vous grimez en noir pour l'Halloween, ou si vous êtes noir et que vous vous maquillez en blanc pour l'Halloween, a-t-elle poursuivi à quelques jours de la grand-messe populaire du déguisement aux États-Unis. Quand j'étais enfant, c'était OK tant qu'on se déguisait en personnage, a-t-elle ajouté. Ses propos ont entraîné un véritable tollé, notamment sur les réseaux sociaux avec des appels à sa démission, mais ont également refroidi ses propres collègues. « Je condamne ces remarques. Elles n'ont pas leur place sur notre antenne ou sur notre lieu de travail », a dit mercredi Andy Lack, président de NBC News. Alors qu'elle a présenté ses excuses aux équipes, elle en doit de plus importantes aux personnes de couleur du pays, a estimé Al Roker, présentateur météo de la chaîne qui est noire. NBC a présenté hier une rediffusion de son émission. Megyn Kelly Today, alors que les rumeurs autour d'une annulation de son émission se renforçaient. « Je suis désolée », avait lancé la veille l'ancienne star de Fox News pour commencer son émission en direct. « J'ai appris qu'au regard de l'histoire du blackface, utilisée de manière atroce par les racistes dans ce pays, ça ne doit pas faire partie de n'importe quel costume à l'Halloween ou autre », avait-elle poursuivi, en accueillant ensuite deux intervenants noirs pour discuter de cette controverse. Ancienne figure de proue de la chaîne conservatrice Fox News, Megyn Kelly a rejoint NBC au début de l'année 2017. En 2015, Donald Trump avait suggéré que la présentatrice l'avait injustement traitée durant un débat, car elle avait ses règles. Ici Radio-Canada Télé souhaite avoir Pierre-Yves Laure à son antenne la saison prochaine. L'animateur tournera d'ailleurs le pilote de nouvelle émission le 7 novembre au célèbre Studio 42 dans la Grande Tour. Selon ce qu'on sait du projet, Pierre-Yves Laure sera entouré de collaborateurs dans ce concept bâti à partir des histoires de vie, parfois loufoques, parfois touchantes, de personnalités connues ou d'illustres inconnus. Aux communications de Radio-Canada, on confirme qu'une émission test sera tournée, car on a très envie de travailler avec lui, m'a-t-on dit. Guy Jourdouin sera la première vedette à prendre place sur la chaise au supplice, un nouveau segment présenté à l'émission « Ça finit bien la semaine » aujourd'hui sur les ondes de TVA et dont certaines questions vont assurément décontenancer les invités. Ne pouvant répondre à l'interrogation « Combien t'a coûté ton divorce ?» posé par Julie Bélanger, l'animateur du jeu « Le tricheur menotté » devra mettre des lunettes de sécurité afin de se préparer à l'arrivée d'une balayeuse à feuilles à voir ce soir dès 19h. Renaud n'est pas tout à fait en pleine forme, mais il va mieux. En tout cas, aussi bien que possible, étant donné ses excès passés. C'est le message que veut faire passer David Séchant, le frère du chanteur. Alors qu'il sort ces jours-ci un livre de photos qui retrace leur parcours à tous les deux. Le jumeau de l'interprète de Mistral gagnant s'est voulu rassurant. Il va bien, il est en pleine renaissance, une nouvelle renaissance. Il prépare un album et il a une hygiène de vie bien meilleure que ces derniers temps. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour sa santé, a-t-il expliqué.
Si la chance ne tourne pas pour toi, et si la danse compliquait ses pas. Compliqué c'est pas quand la nuit tombe, si la vie t'avale dans ses flots. Même si la nuit tombe sur la mer de tes idéaux,
qui sait, peut-être
un jour la chance te sourira.
La chance par Dumas.
Quelques suggestions sorties, l'Halloween à Montréal et ailleurs au Québec. Le nouveau festival Halloween Montréal, je vous en parlais hier, se tient jusqu'au 28 octobre, principalement dans le quartier des spectacles, cinéma, humour, danse, littérature, salon du livre, histoire et marché de collectionneurs. Au Jardin botanique, jusqu'au 31 octobre, le grand bal des citrouilles permet d'admirer avec la sorcière Esmeralda quelques 800 courges sculptées. Il y a aussi le 16e Festival de la frayeur qui a lieu à la Ronde jusqu'au 28 octobre. Zombies et vampires, maisons hantées et coins effrayants. La Marche des zombies est un rassemblement de bons morts vivants. C'est demain sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Rendez-vous des zombies sur la place du Canada à compter de midi. Et Délirium à Trois-Rivières, pour les 16 ans et plus, c'est un parcours de peur de 60 minutes de la vieille prison en compagnie de personnages fous. C'est demain, 27 octobre, et les 2, 3, 9 et 10 novembre prochains. Aux promenades fantômes à Québec, une quinzaine de personnes, de personnages ensanglantés, se trouveront sur votre parcours de 2h30 dans la ville. Soyez avertis, la nuit des sorcières se tiendra à l'Aquarium du Québec, demain, et on peut visiter le village hanté au village québécois d'antan, Drummondville, 3 km de rues et de sentiers, et 30 activités animées les vendredis et les samedis jusqu'au 3 novembre. L'album jeunesse pour 3 à 6 ans, Le chemin de la montagne de Marianne Dubuc, a su gagner le cœur des bibliothécaires de Montréal. L'histoire de la vieille Madame Blaireau qui monte chaque semaine au sommet de la montagne et qui entraînera le petit Lulu dans sa balade, lui faisant découvrir la nature, a remporté le prix du livre Jeunesse 2018 des bibliothèques de Montréal. Le jury de 5 bibliothécaires a salué la mise en scène subtile de la poésie du quotidien de cette ode à la nature sensible et remplie d'humanité. Une bourse de 500 $ accompagne le prix. Bravo! Exposition 120 ans de cinéma français. Ils étaient là au tout début du cinéma, quelques mois à peine après les premières projections organisées par les Frères Lumière, et ils sont encore là aujourd'hui. Pour ces 120 ans d'existence, la maison de production de cinéma française Gaumont a organisé une exposition Gaumont depuis que le cinéma existe qui a fait le tour du monde, avant d'arriver ces jours-ci à la Cinémathèque québécoise. Au premier chef, on rencontre Léon Gaumont, fondateur de l'entreprise, ingénieur passionné du cinéma naissant et son assistante devenue la première réalisatrice au monde, Alice Guy. L'image doit être animée, sonore et en relief, disait l'ingénieur Gaumont, qui dès 1896 soutient la production de films en couleur que des dizaines d'ouvrières colorent au pinceau image par image. À partir de 1907, la société acquiert une machine à colorier les films. Alors, si vous voulez en savoir plus, Gaumont, depuis que le cinéma existe, cette exposition est à la Cinémathèque québécoise jusqu'au 25 novembre. L'Académie française a ouvert jeudi la saison des prix littéraires en décernant son grand prix du roman à Camille Pascal pour « L'été des quatre rois » publié chez Plon. Roman racontant l'été 1830, quand quatre souverains se sont succédés sur le trône de France. Il a remporté le prix au troisième tour de scrutin à 13 voix contre 7 à Alain Mabancou, « Les cigognes sont immortelles » et 2 à Thomas B. Reverdy, « L'hiver du mécontentement », annoncé jeudi l'Académie française. Thank you. D'autres suggestions, le salon des vins d'importation privée, c'est en fin de semaine, samedi et dimanche de midi à 19h au marché Bon Secours, le salon des vins d'importation privée qui rassemble plus de 150 vignerons du monde, invite le public. Mercredi de 17h à 21h, le public de Québec sera attendu au terminal de croisière de l'Espace d'Alousie. Tarif 25 $ en prévente, 30 $ à la porte, ce qui inclut l'entrée, un verre et 15 $ de coupons pour les dégustations. Et Karen Young à l'Astral, c'est ce soir, 20h. L'Astral, belle petite salle, la pianiste Marianne Trudel et la chanteuse Karen Young qui présentent leur spectacle Portrait, Songs of Joni Mitchell, tarif de 36 à 40 $. Les drôles de fantômes de Pointe-à-Calière, en fin de semaine de 11h30 à 15h, les enfants de 4 à 10 ans pourront rencontrer les fantômes du musée grâce à une histoire et à une mise en scène de Simon Boulris, inclus dans le tarif d'entrée du musée. Une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant des aliments invendus veut détourner au moins 18 tonnes de pain des sites d'enfouissement en un an pour en faire de la bière. En novembre, une nouvelle venue dans le monde des bières de microbrasserie québécoise fera son entrée dans les épiceries, la bière Loop, L-O-O-P, faite de pain qui aurait autrement abouti à la poubelle. La jeune entreprise Loop se spécialise en économie circulaire. Depuis plus de 2 ans, elle se fait connaître avec ses jus pressés à froid, confectionnés à partir de fruits et de légumes invendus. Depuis qu'elle a lancé ses activités, l'entreprise a permis de sauver près de 745 000 fruits et légumes, ce qui représente plus de 600 000 kg d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Mais Loop n'est pas une compagnie de jus, insistent ses fondateurs. Notre mission, c'est de réduire le gaspillage alimentaire et par le fait même, notre but, c'est de créer des produits qui vont prendre des surplus de l'industrie et qui vont les remettre dans la chaîne de valeur, a expliqué le cofondateur de Loop, David Côté. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Allez-vous célébrer l'Halloween? Si oui, ben faites bien ça et amusez-vous bien, soyez prudents. Et les monstres seront partout parce qu'il y a des parties qui commencent en fin de semaine, même si l'Halloween, c'est le 31 octobre. On fait ça un petit peu avant, le week-end donc qui précède la date. Bon gala de la disque et merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis, à lundi.